7h29, minute. Publication hier d'une étude sur les modes de transport des gens de la grande région de Montréal. Quand vient le moment de choisir comment on va se rendre au travail? Comme ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous pris le métro, l'autobus, votre véhicule? Vous faites du covoiturage? Êtes-vous allé à pied, quand c'est possible, évidemment, de le faire? Et là, on se rend compte que le transport en commun, en général, attire pas assez de monde. Depuis 10-15 ans, c'est un peu du surplace, légère augmentation. Mais il y a encore, quoi, 2/3 des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler. Luc Tremblay est le directeur général de la STM, est avec nous. Monsieur Tremblay, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcan.
2/3 des gens, là, ça veut dire qu'il y a plus d'autos qu'avant sur le réseau. Ça veut dire que les gens ont pas encore, là, et parce que c'est pas mal du surplace pour le transport en commun, choisissent pas les options que le transport en commun offre.
En fait, c'est une réalité. L'offre en transport en commun dans les dernières années n'a pas été vraiment en hausse. On l'a fait tout dernièrement, là, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est sûr qu'il y a des projets comme le REM là, qui vont sûrement contribuer à amener ça. On a commencé à augmenter le métro, l'offre de service dans le métro depuis 2 ans. En transport en commun, il n'y a pas de secret. Il faut augmenter l'offre pour attirer les gens. Ça, c'est un. Et deux, bien, il faut donner un service de qualité. Et en toute transparence, je vous dirais qu'on a encore un petit peu de travail à faire chez nous de ce côté-là. Tous les matins, on a de la difficulté à livrer le service premier à notre clientèle pour toutes sortes de raisons.
Mais donnez-moi les raisons.
Ben, en fait, l'organisation du travail chez nous, entre autres, ne nous permet pas de livrer 100 % du travail. Vous avez vu en fin de semaine là, que nos employés d'entretien ont voté un vote de grève dans les prochains jours. Là, évidemment, on rassure la clientèle. On n'est pas là encore, là, mais on continue à négocier. Mais à tous les jours que... on doit livrer le service, on n'a pas tout ce qu'il faut pour le livrer à 100 %.
Mais là, j'ai la misère à vous suivre. Quand vous dites on n'a pas tout ce qu'il faut pour livrer à 100 % le service qui est déjà là, qu'est-ce que vous voulez dire?
Bien, pour livrer un service, ça nous prend un chauffeur, ça nous prend des bus. Pour avoir des bus, il faut qu'ils soient réparés, il faut qu'ils soient entretenus de façon régulière pour être en mesure de le sortir à tous les matins. Et l'organisation du travail qu'on a actuellement ne nous permet pas de le faire. On aimerait avoir des quarts de nuit, des quarts de soir, parce que vous savez que nos bus sont sur la route le jour. Donc, les entretenir pendant qu'ils roulent, c'est très difficile. Donc, on demande d'aller mettre des quarts de jour, des quarts de soir. On veut avoir, l'été, par exemple, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un « shutdown » de l'usine qui où est-ce qu'on répare nos pièces. L'été, il faut comprendre que c'est une méthode, une période où on rattrape le temps perdu pour la rentrée de septembre. Donc, on aimerait qu'on soit capable de ne pas être obligé de fermer l'usine pendant cette période.
OK, mais là, ce que vous me dites, c'est un enjeu de convention collective.
Exactement.
Et puis là, ça arrive au moment, l'étude sort au moment où le syndicat vote pour 6 journées de grève. Eux disent que vous voulez forcer le temps supplémentaire obligatoire, qu'il n'y a pas de conciliation travail-famille possible, que vous voulez recourir à de la sous-traitance.
Bon, il y a plusieurs affirmations là-dedans. On va les prendre une par une. Les heures supplémentaires au cours des 3 dernières années ont été coupées de moitié. Donc, on ne les a pas augmentées. Ce qu'on demande, par contre, en toute transparence à nos employés, c'est de pouvoir en exiger dans des moments vraiment urgents. Une tempête de neige de 40 cm de neige, il faut être capable de donner un blitz pour réparer les autobus qui sont pris un peu partout. On ne veut pas être obligé de passer une par une les personnes, savoir qui est intéressé en faire. Donc, c'est vraiment des cas pointus.
Mais dites-moi une chose, là.
Oui.
Je me souviens des glorieuses époques des batailles du syndicat d'entretien, puis même des chauffeurs, là, mais je me souviens du syndicat des employés d'entretien. Il me semble que depuis quelques années, c'était relativement tranquille.
Mais c'était tranquille parce que depuis 30 ans, moi, ça fait 24 ans que je suis à l'ESM, on a laissé justement beaucoup, beaucoup de laisse de ce côté-là. Quand on dit qu'on attaque la conciliation travail-famille, on ne l'attaque pas, on essaie juste de refaire un petit peu un équilibre par rapport à ce qu'on devrait être capable de donner comme service à la clientèle. J'avais un sondage la semaine dernière là, qui nous donnait Forbes plaçait la STM comme étant une des meilleures entreprises pour ses employés au Canada. Donc, on essaie juste de rétablir l'équilibre un petit peu pour donner un service à tous les travailleurs.
Je reviens à l'étude là, qui nous montre quelque chose d'assez clair. Puis je vais vous donner un exemple que j'ai calculé. Un déplacement, disons, du sud-ouest de Montréal vers la Chine. OK? Mm-hmm. 3 options. Vélo, auto, transport en commun. La pire option, c'est le transport en commun en termes de temps.
Exact. Et ça,
on peut répertorier d'autres exemples. L'étude parle de 9 arrondissements où il y a une augmentation, puis 9 autres où il y a une baisse, là, les gens prennent le vélo.
Absolument. Allez voir, par exemple, dans l'est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, là, les axes nord-sud, c'est mal desservi. C'est pour ça que dans notre plan stratégique, on va faire cette année une consultation, on va revoir l'ensemble du réseau. C'est une autre chose, le réseau n'a pas été revu depuis des années. On le rafistole à la pièce à chaque année. Là, on veut le revoir au complet. On va consulter les chauffeurs, les employés, consulter la clientèle pour être en mesure de déterminer quels sont les meilleurs trajets. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, mais on se donne la responsabilité de tout regarder, par exemple. Et ça, c'est une première. Moi, encore une fois, là, je ne veux pas me répéter, mais ça fait longtemps que je suis à l'ASM, on n'a jamais fait ça. Donc, on l'admet, il y a des choses à améliorer et ça contribue à ce que vous disiez en entrée de jeu sur le sondage. On a du travail à faire pour être en mesure de rendre ça encore plus attractif pour les clients.
Ça, je comprends, mais au prix que coûtent les véhicules, l'essence, l'entretien, l'achat donc de ce véhicule-là, quand quelqu'un qui part de la banlieue pour venir travailler à Montréal décide qu'il prend son char et qu'il va partir plus tôt le matin parce que l'heure de pointe risque d'être plus longue, ça veut dire que le système de transport en commun est pas fort. Malgré tous ces obstacles-là, ces contraintes-là, ces coûts additionnels, il prend pareil son auto.
Oui, mais ça, comme je vous dis encore une fois, pas qu'il est pas fort, on peut l'améliorer. Je pense qu'on l'a amélioré beaucoup depuis...
Mais les trains de banlieue, je sais que c'est pas dans votre cours, là, mais quand même, là, c'est le pire hiver qu'on a jamais vu. Deux montagnes, des retards perpétuels, des employeurs qui mettent de la pression en disant, écoute, ça peut pas arriver à l'heure, ça peut arriver une fois, là, mais ça peut pas être deux fois par semaine.
Ben, c'est clair que dans des cas comme ça, on n'aide pas le client à faire le transfert modal. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je reviens à mon point du départ. Il faut qu'on se donne les moyens pour être en mesure d'être une alternative pour les gens qui prennent la voiture. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, moi, on va parler pour ma paroisse. Je reçois des rapports à tous les matins, puis je donne pas ce que je promets au client. Donc, quand je fais pas ça, j'ai pas l'occasion de convaincre beaucoup les gens très souvent. Si la personne décide de le faire, de l'essayer une fois, deux fois, trois fois, puis à chaque fois, je suis pas là, elle va continuer à utiliser sa voiture. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de rétablir un certain équilibre pour se donner le moyen, pour être en mesure d'être là comme les gens le veulent.
Là, êtes-vous en réaction au rapport où vous êtes là pour faire le spin du patron
pas
qui dit
tout
à ses employés,
non,
là, les conventions collectives ont été trop fins dans le passé, trop mous,
non,
trop généreux. Là, c'est le temps de redresser la barque.
Ben, je fais pas le spin. Je vous dis que c'est un argument parce que le transport collectif, c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas pris. C'est, il y a plusieurs exemples. Et une des raisons, c'est ça. Il y en a d'autres. Il reste que les gens qui sont dans leur voiture, ça peut toujours être plus intéressant d'être plus confortable, s'il y a moins d'entassement. À un moment donné, c'est une question, est-ce que j'ai le goût de partager mon quotidien avec des gens aussi? Quand je suis dans ma voiture solo, ben les gens qui aiment pas être avec les gens avec dans le monde et tout ça, ça contribue aussi à ça.
Je vous donne un exemple là, que ben, en fait appelons ça une figure pour illustrer là de la personne qui dit moi là je veux vivre l'expérience du transport en commun pour venir à Montréal.
Mm-hmm.
Arrive à 7h05 au stationnement incitatif, c'est plein. Il peut même pas stationner.
Tu avais raison.
Là tu dis OK, je fais quoi? Là tu trouves un trou quelque part, puis là tu prends l'autobus ou encore pire, tu prends le train de banlieue. Le retard est différé de 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Là, tu calcules tout le temps que tu as pris pour te rendre au travail, puis tu dis, si ce matin-là, j'avais pris mon auto, probablement que je serais arrivé plus vite.
Bien, il faut quand même aussi regarder que là, en ce moment, si vous prenez votre voiture à Montréal, il y a quand même beaucoup de chantiers. Il faut relativer.
Oui.
Là. Mais je ne suis pas sûr que la voiture est toujours le moyen le plus rapide. Mais dans plusieurs des cas, je suis d'accord avec vous, ça arrive. Et c'est à nous, comme exploitants du transport collectif, de rendre ça attractif. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent de la fréquence, ils veulent de la fiabilité, ils veulent de l'information aussi. Il faut de plus en plus, si on est capable de faire en sorte que les gens qui sont dans le transport collectif n'ont pas l'impression de perdre leur temps. Dans le métro, par exemple, on est rendu qu'on a mis le cellulaire dans le métro. Vous pouvez utiliser votre cellulaire, travailler un petit peu si vous voulez, plutôt que dans le métro puis d'attendre. C'est toutes des petites choses qu'il faut penser pour faire en mesure de rendre ça intéressant. À la STM, ce qu'on a fait, on a découpé le parcours client qui se constitue de 25 étapes entre le moment où la personne choisit son déplacement et où est-ce qu'elle arrive à destination. Et on a demandé aux gens comment on peut faire pour améliorer chacune des 25 étapes. On a eu 8500 idées, pas des choses compliquées, des choses par contre qu'il faut qu'on mette en application et c'est dans notre plan stratégique. Donc, il faut qu'on rende ça plus attractif pour la clientèle. Ça, c'est indéniable. Ça, je suis d'accord avec vous.
Je sais que vous n'êtes pas un élu, là, mais... Il y a des villes dans le monde qui ont fait le choix. Je pense à Londres, je pense à Milan et bientôt New York, là, c'est-à-dire d'imposer à chaque véhicule qui entre dans une partie du territoire, qui est le cœur de la ville, un frais supplémentaire. À New York, on parle de 11 $ pour les autos, on parle de 2 à 5 $ la course de taxi. Vous pensez quoi de cette mesure qui vise, dans le fond, à faire payer cher ceux qui veulent venir au centre-ville en auto?
Bien, c'est sûr que ça va prendre des moyens coercitifs aussi. On peut pas, on s'en sort pas. Tous ceux qui ont réussi à faire des transferts modaux importants ont usé de telles stratégies. Laquelle est la meilleure? On pourra en discuter très, très longtemps, mais ça n'en prend. Il reste qu'à un moment donné, quand on veut initier un changement social, il faut donner une direction. La bonne nouvelle, c'est que les gouvernements sont au rendez-vous depuis quelques années. Il y a de plus en plus de concertations. Il y a l'arrivée de la RTM, là, l'agence L'Autorité régionale des transports métropolitains.
Je peux pas dire que c'est un gros succès jusqu'à maintenant.
Ben, il faut leur laisser un petit peu de temps de s'installer. Ça fait pas longtemps non plus, mais ils vont avoir une vision métropolitaine. C'est ça qui est intéressant parce que, moi, encore une fois, en 25 ans, on n'a pas vu souvent beaucoup de monde qui réfléchissent pour intégrer tout ça. C'était un petit peu éparpillé. Là, on a des gens qui veulent le faire, puis on va travailler avec ces gens-là. Ça va être intéressant. Ça va donner des résultats. Il faut juste leur laisser un petit peu de temps pour le faire. Mais je reviens à ce que je disais. C'est indéniable qu'il faut qu'il y ait une intervention pour faire en sorte d'inciter les gens. Quand on veut avoir un changement, il faut les envoyer par là parce que s'il reste qu'à, si on les prend à la pièce, les gens, à un moment donné, ont une réticence et il faut donner des messages clairs et ça se traduit même au niveau de l'argent.
Mais ça, c'est l'approche ferrandaise un peu. C'est-à-dire, je bloque des rues, j'écœure les automobilistes, puis là, ou encore, je charge au centre-ville plus d'argent. Si tu veux venir en auto, tu vas payer pour.
Ben, j'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de faire les choses.
Oui, mais
ça en est une. C'est peut-être des fois dans certains cas, là, je laisse au choix le politicien de choisir le moyen.
Non.
Mais ça n'en prend. Ça n'en prend des moyens de coercition pour être capable de faire un transformateur. Ça a été documenté et c'est la réalité.
Merci, M. Tremblay. Luc Tremblay est le directeur général de la Société de transport de Montréal, 7h40.